C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui tentèrent de passer, furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, et ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, et dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur, nous te prions d'ouvrir notre cœur maintenant à l'écoute de ta parole, afin que ce message de la foi puisse produire du fruit dans notre cœur et que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Seigneur, nous voulons encore nous nourrir de ta parole ce matin, être attentifs à ce que tu veux nous dire et recevoir ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est un grand menu, ce chapitre 11. Des Hébreux qui parlent de plusieurs héros de la foi. On en a vu 4 la dernière fois. Il s'agissait d'Abel, dans les versets premiers et suivants. Abel qui a fait une offrande par la foi. On a parlé de l'offrande et du sacrifice, comment il a été conduit par Dieu à offrir un agneau. Enoch, un peu plus loin, qui nous parle de l'enlèvement de l'Église, parce que Enoch marchait avec Dieu et il a été enlevé. C'est ce qui va se passer dans la fin des temps pour l'Église, les croyants, qui, alors qu'ils vaqueront à leurs occupations quotidiennes, tout d'un coup, le Seigneur reviendra du ciel, et ceux qui ont la foi, dans toutes les dénominations, comme on les appelle, protestants, baptistes, évangéliques, il y aura certainement aussi des catholiques, quelques-uns qui ont la foi, néanmoins, eh bien, ils iront vers le Seigneur à qui ils ont cru. Et puis, il y a aussi Noé et la construction d'une arche par la foi. Ça nous parle de cette nécessité d'être préservé du déluge. Le déluge, c'est aussi le retour de Jésus qui vient. Ça sera un temps de jugement. Vous savez qu'il y a la grande tribulation qui arrive sur la terre. Mais ceux qui seront rentrés dans l'arche, donc ceux qui ont la foi, ils seront épargnés, ils seront sauvés. Et puis Abraham qui nous parle de la persévérance. Par la foi, il ne suffit pas de croire le jour de son baptême, mais il faut croire jusqu'au bout. Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'à son retour ou jusqu'à notre départ, dans la patrie céleste. Alors, on va continuer avec Moïse au verset 23. Moïse, qui, lui, a un plan particulier de Dieu sur sa vie, Moïse, dès sa naissance, verset 23, à sa naissance fut caché. Il est né dans des conditions difficiles, mais nous voyons que même si les conditions sont difficiles, frères et sœurs, Dieu a un plan sur notre vie, comme il a un plan pour la vie de Moïse, parce que Moïse, il est dit qu'il était beau aux yeux de Dieu, qu'il avait quelque chose que Dieu a placé sur lui pour son service, mais dès sa naissance, il y avait un plan de Dieu. Et on peut dire ce matin qu'il y a un plan de Dieu sur notre vie, mais qu'il y a aussi un plan du diable sur notre vie. Parce qu'il y avait un plan du diable sur la vie de Moïse, c'était qu'il périsse à sa naissance. Vous savez qu'il y avait un décret parmi les Égyptiens, c'était comme une loi, un édit qui stipulait que chaque enfant garçon devait être tué afin d'empêcher la croissance de ce peuple d'Israël qui était béni et qui avait beaucoup de naissances. Et gloire à Dieu pour les naissances, nous croyons que c'est une bénédiction. Et on voit qu'à ce temps-là, il y avait tellement de naissances que le Pharaon voulait enrayer cette montée en puissance du peuple de Dieu. Alors le plan du diable pour Moïse, il existe. C'était que cet enfant soit tué à sa naissance. Eh bien, nous disons aussi, autant il y a un plan de Dieu sur notre vie, autant il y a aussi un plan du diable qui existe. Parce que Pierre parle bien du lion rugissant qui cherche qui il pourrait bien dévorer. Eh bien, c'est son plan, en tout cas c'est son désir. Il aimerait bien dévorer chacun de nous, mais nous demeurons en Christ. Et si nous demeurons en Christ, il ne pourra pas arriver à ses fins, comme il n'a pas pu aboutir à ses fins avec Moïse, parce que Moïse était gardé dans la main de Dieu. Plaçons-nous ce matin dans la main du Tout-Puissant et nous serons gardés des agissements du diable. Cet enfant était fragile, ça n'était qu'un bébé. Et pour le sauver, sa mère va faire quelque chose, peut-être de fou aux yeux des hommes, mais c'était encore conduit par Dieu. Elle a remis cet enfant dans le Nil, dans un panier couvert de poids pour ne pas qu'il coule, et elle a abandonné, en quelque sorte, elle a abandonné son enfant dans les eaux du Nil, en même temps qu'elle priait pour que Dieu le garde. Mais ce que nous disons, c'est qu'elle n'a pas abandonné à un destin quelconque cet enfant, mais elle l'a abandonné dans les mains de Dieu. Ce n'est pas comme si elle le jetait dans le Nil comme cela, en disant, on verra bien ce qui va arriver. Mais c'est comme si elle confiait à Dieu ce bébé pour qu'il soit gardé dans ce berceau, dans ce petit panier qu'elle avait confectionné. Et ainsi, nous croyons que Dieu va nous garder dans ces moments où nous sommes parfois comme ballottés. Vous savez, sur le Nil, il y a tous ces courants, il a été entraîné. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu, parce que le courant, Dieu l'a fait conduire jusqu'à un endroit où se baignait justement la fille de Pharaon. Donc, on pourrait avoir l'impression tout d'un coup que cet enfant, il est abandonné et que ça va mal tourner. Et qu'on ne va pas s'en sortir. Mais Dieu fait concourir les circonstances, les éléments, pour la faveur de ses enfants. Alors nous devons continuer à croire, frères et sœurs, car même si on a l'impression que cet enfant va disparaître, qu'il va être abandonné sur les lignes, non, il y a la main de Dieu qui soutient le panier et qui va le conduire jusqu'au port, jusqu'à la présence de la fille de Pharaon. Là, il va être élevé dans toute la science des Égyptiens, nous dit la parole de Dieu. Il est devenu grand, on a vu dans ce verset. Maintenant, c'est le temps des décisions. Il y a un temps où on doit suivre l'éducation, puisqu'il est élevé parmi les Égyptiens. Il a reçu l'éducation des Égyptiens, c'est-à-dire des faux dieux égyptiens. Mais en même temps, il avait reçu aussi l'éducation par sa nourrice, qui n'était autre que sa mère. Il avait entendu parler du Seigneur. Et à un moment donné, devenu grand, nous dit ce texte, il a fallu faire le choix. Le choix entre le monde, ou les privilèges qu'il avait en tant que fils, entre guillemets, de Pharaon, élevé à la cour de Pharaon. Et ce Dieu que sa mère lui parlait, sa véritable mère, lui parlait, ce Dieu, parce qu'il était du peuple d'Israël. Et ce texte nous dit que Moïse, devenu grand, verset 24, verset 25, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voilà le choix que nous devons faire, c'est exactement le même, c'est-à-dire refuser le monde et ses privilèges pour faire le choix de Dieu. Parce que l'héritage terrestre, il est vain. Alors c'est vrai que dans son cas, c'était quand même, imaginez, vous êtes élevé à la cour du roi. Donc il avait des privilèges énormes, son héritage était énorme. Il allait devenir le successeur de Pharaon. Il était promu en tout cas pour être très haut dans la société. Donc c'est un renoncement très important. Il préfère renoncer à la gloire des hommes pour s'attacher au Seigneur. Je crois que c'est le choix que nous devons faire, frères et sœurs, parce qu'il a choisi un héritage où Jésus dit « L'or ne peut pas se corrompre ni se rouiller, c'est l'héritage céleste. » C'est l'héritage céleste. Lisez l'Apocalypse, vous voyez ce qui nous attend dans le ciel. Il est question d'une ville d'or pur. La cité céleste, ah, c'est quelque chose de glorieux. La Bible dit que c'est de l'or pur comme du verre transparent. Alors, je pense qu'on ne peut pas le représenter sur terre, parce que de l'or, ça ne ressemble pas à du verre. Mais l'or qui est dans le ciel, il est pur comme du verre transparent. C'est-à-dire que c'est la perfection absolue qu'on ne pourrait même pas reproduire. Ici, sur terre, on ne peut pas produire de l'or pur comme du verre transparent. Vous pouvez essayer de prendre de l'or, d'essayer de le rendre transparent. Ce n'est pas possible. Cette matière n'est pas transparente. Mais Dieu a pour nous un héritage extraordinaire. Et une place nous est réservée au ciel. Donc Moïse a fait le choix. Nous devons faire le choix. Un peu plus loin, il est dit, verset 26, il s'identifie maintenant à Christ. Il va s'identifier à Christ dans le sens où il préfère. Alors évidemment, Christ est venu après, mais c'est déjà par la foi, nous sommes dans la foi. Il préfère suivre le Seigneur Jésus, suivre Dieu et sa volonté, plutôt que le monde et sa folie. Il s'identifie et il va regarder l'opprobre de Christ, verset 26, comme une richesse, la vraie richesse. Plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Ah, la vraie richesse, elle est spirituelle. La vraie richesse, ce n'est pas celle que nous possédons ou que nous avons dans une banque. La vraie richesse, c'est la richesse spirituelle des enfants de Dieu. La vraie richesse, nous la trouvons dans l'Écriture lorsque Jésus explique qu'un homme avait justement des grands biens matériels et qu'il s'est dit « Que vais-je faire de mes biens ?» Et il y en a qui ont tellement gagné de biens, ils n'ont pas d'une vie entière pour dépenser tous les biens qu'ils ont achetés. Tous les biens qu'ils ont eus. Et c'est le cas de cet homme, il a de grands biens, il dit « Je vais abattre mes greniers, je vais en construire des plus grands. » La richesse, c'est vrai qu'il a réussi sur le plan humain, il a réussi dans la vie, on dira, il a accumulé. Mais qu'est-ce que la véritable réussite, frères et sœurs? Est-ce que la réussite, c'est l'accumulation des biens? Eh bien, nous sommes les plus malheureux des hommes si la réussite est là. Parce que pour Dieu, il dit, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et tous ces biens, toute cette richesse, pour qui est-ce que ça sera? Ça sera pour d'autres. Toi, tu as accumulé, mais c'est d'autres qui vont profiter. Donc, Jésus nous explique que notre âme et notre relation avec Dieu vaut plus que toute la richesse du monde. Il dit ceci à la fin de cette parabole. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, des trésors, mais qui n'est pas riche pour Dieu. La véritable richesse, elle est là. Soyons riches, frères et sœurs, pour Dieu. Aimons le Seigneur, cherchons à le servir et à lui plaire. C'est ça la richesse spirituelle, la richesse riche pour Dieu. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Quand on a misé sur les biens matériels, on a notre récompense. La récompense est terrestre. La récompense, et finalement, elle nous échappe comme L'aigle, elle prend son envol. C'est ça la récompense. Mais quand on a des richesses spirituelles, on a une récompense spirituelle céleste. C'est la bénédiction de Dieu. Et frères et sœurs, ça vaut bien plus que tout ce que le monde peut proposer. Alors, Moïse a bien compris, il n'a pas cherché son avantage. Ah, il aurait pu vivre une vie confortable, vivre dans l'abondance, dans les palais du Pharaon. Mais pour Christ, ou pour Dieu, mais pour nous, pour Christ, il a préféré quitter. Quitter, donc il est parti d'Égypte, cherchant, en fait, une cité meilleure, la cité de Dieu. Alors il est dit que ses yeux étaient fixés sur la rémunération, mais céleste, verset 26. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il en est de même pour nous, chrétiens, nous avons nos regards fixés sur le but. Paul écrit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il est bien question d'un prix, là il est question d'une rémunération, mais c'est une récompense. Et elle est là devant nous, et elle nous attend dans le ciel. Nos yeux sont fixés, frères et sœurs, non pas sur les choses périssables, les choses passagères. Nous partirons nous aussi de ce monde. Nos yeux sont fixés sur des choses plus nobles, plus élevées, qui dans l'Écriture sont célestes. Je cours vers le but. Mes yeux sont fixés sur la vocation céleste. Ma destinée est avec Dieu. Alors, regardez toujours ses yeux. Je crois qu'il nous faut, par la foi, toujours dans ce thème, il nous faut canaliser nos yeux dans la bonne direction. Avec ses yeux, il regarde la rémunération céleste. Et verset 27, « Avec ses yeux, il est comme voyant celui qui est invisible. » Ses yeux ont développé le regard de la foi. Il voit ce qui est invisible. Voilà les chrétiens. Ils regardent vers l'invisible. Ils marchent sur l'eau. Ils ordonnent aux montagnes, « Jette-toi de là !» Et la montagne obéit. Les chrétiens vivent dans une autre dimension spirituelle, c'est la foi. Et dans la foi, il y a des choses que nous ne voyons pas, frères et sœurs. Nous ne les voyons pas, mais nous les sentons dans notre cœur et nous les savons avec notre intelligence. Nous savons que Dieu, par exemple, est présent au milieu de nous par sa grâce. Nous ne le voyons pas, mais nous le savons dans notre cœur et nous le savons par la foi. Nous savons que Dieu a créé l'univers par sa parole. Nous n'étions pas là, mais nous le savons, nous l'avons reçu par la foi. Toute notre vie chrétienne, nous la vivons dans la foi, dans la dimension de Christ, comme Moïse. Moïse était dans la foi, et lorsqu'il est parti, il regardait vers celui qui est invisible. Il ne le voit pas, mais il le ressent dans son cœur. Il est là. Dieu le conduira. Il se révèle à lui dans le buisson ardent. « Je suis le Dieu de tes pères. Je suis celui qui suis. » Il ne le comprend pas, il ne le sait pas, mais Dieu lui parle. Et Dieu va le conduire à libérer le peuple. Alors, une fois de retour, puisqu'il a passé les 40 ans au désert, verset 28, maintenant nous arrivons au sang. Et avec la foi, il y a toujours le sang, pour nous le sang de Christ. Mais lui, par la foi, il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang. Par la foi, ce n'était pas juste du sang, mais c'est du sang associé à la foi, toujours la foi. La foi est présente partout dans l'Écriture, dans le cœur du croyant. Par la foi, donc, il a pris le sang d'un agneau qui a été immolé, c'est-à-dire égorgé. On a répandu ce sang dans des cuvettes et on a pris du sang avec des morceaux de bois et on a répandu ça sur les linteaux des portes. Et ce sang-là, c'est le sang de Christ pour nous qui nous protège. Ils ont été sauvés. Lorsque l'ange exterminateur est venu arracher les premiers-nés des Égyptiens, le peuple de Dieu était gardé. Pourquoi ? Par le sang de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes couverts par le sang de Jésus ce matin. Que son nom soit béni. Nous sommes protégés de l'accusation du tentateur, de ses projets malfaisants. Parce que par la foi, nous sommes protégés par le sang, sous le sang, le précieux sang. Il y a un cantique que nous prenons, sous le sang, le précieux sang de Jésus. Et ce sang a une particularité, c'est qu'il est encore efficace aujourd'hui, parce qu'il a été versé il y a 2000 ans, mais il est encore efficace parce qu'il est spirituel, éternel, le sang de Christ. Ce n'est pas une superstition, c'est une réalité spirituelle. Nous sommes bénéficiaires du sang de Christ. Mais là, c'était le sang des agneaux qui préfigurait bien sûr le sang de Jésus, le sang des agneaux, associé à la foi. Le sang de Christ a été versé, mais pour celui qui croit. C'est-à-dire que par la foi, je suis par la foi au bénéfice du sang de Christ. Sans la foi, oui, le sang de Christ a été versé, mais vous enlevez la foi, eh bien, je vois un homme mourant sur la croix, son sang qui est tombé, son sang qui a coulé, qui ruisselle de son corps et qui tombe à terre. Mais si je n'ai pas la foi, je ne suis pas au bénéfice du sang de Christ. Mais si j'ai la foi, je suis couvert par le sang de Jésus. Quelle grâce m'est faite par le sang. Moïse nous montre la voie. Il a d'abord cru, il a d'abord préféré renoncer au monde et à ses plaisirs. Il a préféré un héritage spirituel. Il a développé son regard de foi. Il a répandu le sang sur les linteaux des portes. Il a donc immolé la Pâque et il arrive maintenant au défi de la foi. C'est le passage de la mer Rouge au verset 29. Maintenant, il faut traverser la mer Rouge. Ça, c'est complètement impossible aux hommes. Bien sûr, le peuple ne croit pas. C'est à ce moment-là que le peuple va chanceler, d'ailleurs, parce que tout joyeux, ils sont sortis d'Égypte en chantant des cantiques, en prenant les richesses même des Égyptiens, que les Égyptiens leur donnaient, prenez cela, prenez nos richesses. Ils sont partis joyeux, mais la première épreuve, c'est la dégringolade. C'est un petit peu l'image du chrétien qui, joyeux de son salut, quitte l'Égypte, donc quitte le monde et ses privilèges, mais à la première épreuve, il est complètement déconcerté et il est prêt à retourner en arrière. Le peuple voulait retourner en Égypte à ce moment-là. Et pourtant, il n'avait fait que quelques pas, quelques marches, quelques jours de marche à l'extérieur et déjà, il voulait rentrer en arrière. Quelle tristesse! Quand on voit dans le cœur d'un croyant le désir de retourner en arrière. Jésus le dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu, il ne pourra pas faire de grandes choses pour Dieu. Il fallait que Dieu encore se manifeste. Nous aurons devant nous des obstacles. Là, c'est la mer Rouge. Le peuple n'y croit pas. Pharaon, lui, il croit que pour Israël, c'est terminé parce qu'il vient les récupérer avec son armée. Personne ne croit dans cette affaire. Il n'y a que Moïse qui est là face à la mer Rouge. Et qui nous enseigne véritablement la foi, c'est dans Exode 14, verset 10. Je voulais lire ce passage. Exode 14, verset 10. Voyez, la foi, ce n'est pas juste croire quand tout va bien, frères et sœurs. C'est vrai, on dit on a la foi, on croit. Oui, Dieu est là, Dieu est bon. Mais nous devons conserver la foi dans les moments difficiles, dans les moments où on n'arrive pas à s'en sortir, à joindre les deux bouts. On doit continuer à croire. Quand il y a ces obstacles, on dirait que ce peuple avait la foi pour être sauvé, mais quand il y a l'obstacle, on dirait que leur foi fait naufrage ici, que leur foi disparaît. Alors ils disent, au verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Voilà la réaction donc du peuple incrédule. Il ne croit pas que Dieu va faire quelque chose. Il ne prie pas, il se plaignent. Au lieu de se tourner vers Dieu, de chercher sa face, de jeûner, eh bien, ils préfèrent retourner en Égypte. Alors, où en est notre foi ? Et peut-être quelqu'un est devant un obstacle infranchissable. Mais on dit, si c'est un petit ruisseau, si le peuple avait été confronté à un ruisseau, il l'aurait peut-être traversé facilement. Mais là, c'est trop dur, c'est trop élevé. Mais qu'est-ce qui est trop difficile pour Dieu, frères et sœurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour Dieu ? même un mort, comme Lazare, mort depuis 4 jours. Un mort, pour un mort, ce n'est pas trop difficile pour Dieu. Pour nous, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Parce que Dieu est toujours le Dieu de la résurrection et de la vie. Mais nous l'oublions. Le peuple dit, ce n'est pas possible. Et Moïse dit, regardez maintenant. On est dans une situation impossible. Il dit, c'est le moment où Dieu va agir. C'est ça l'attitude du chrétien qui a la foi. Nous sommes dans la même situation. Eh bien, nous disons, c'est le moment où Dieu va agir. Puisque maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus aucune possibilité n'est devant nous. Ben Dieu. Alors Moïse dit au peuple, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder aujourd'hui, en ce jour. Ah, j'aime bien cette parole de Dieu, parce qu'il y a le mot « aujourd'hui ». Parce que Dieu va répondre, là, c'est le moment. Il fallait pas répondre dans 3 ou 4 jours, mais c'est maintenant qu'ils ont cette difficulté, ce besoin. Alors, Moïse est confiant et il dit, c'est aujourd'hui que Dieu va répondre. Mais quand Moïse dit ça, il ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire encore. Il ne sait pas. Il sait que Dieu va faire quelque chose. Il sait que ça va être aujourd'hui et il ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire. C'est par la foi qu'il parle. Mais simplement, il a cette parole, « L'Éternel combattra pour vous ». Mais Dieu est avec nous, frères et sœurs. Nous ne le voyons pas, il est là, il est à nos côtés. Jésus dit, « Je suis avec vous ». Je suis tous les jours avec vous devant cette mer rouge, je suis là. Parce que un peu plus loin, si vous lisez Acte 13, il y a l'ange de l'Éternel. On sait que c'est une préfiguration de Christ, vous le trouvez dans l'Exode 14. L'ange de l'Éternel gardait le peuple par une muraille de feu. Eh bien, le Seigneur Jésus, c'est comme cet ange de l'Éternel, il est à nos côtés chaque jour. Et en même temps que l'ange de l'Éternel les garde, en même temps le peuple dit, « Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? On aimerait mieux retourner en Égypte. » Voyez, on est en décalage. Nous devons réaliser les avantages que nous avons au lieu de voir toujours ce qui nous manque. Voyons ce que nous avons, frères et sœurs, les possibilités qui sont là, les bénédictions qui sont là, plutôt que de regarder aux Égyptiens et à leur armée et aux difficultés. Alors que Moïse a prié, un vent survient, un vent puissant. La Bible parle d'un vent impétueux qui va pousser la mer en deux, de sorte à faire une muraille de chaque côté, et le peuple va passer à sec. Mais lorsque les Égyptiens vont s'engouffrer derrière pour essayer de les rattraper, la mer va se refermer sur eux et ils vont tous disparaître. C'est une image aussi, cela. Ça nous parle de ceux qui n'ont pas la foi, parce que les Égyptiens, ils n'ont pas la foi, mais qui ont voulu quand même suivre le chemin, mais qui en ont été empêchés, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et d'aller dans sa présence. Mais par contre, tout le peuple qui a finalement cru en Dieu, qui a mis sa confiance en Dieu, qui est passé avec la prière de Moïse, ils se sont ressaisis, ils ont confessé le nom de Dieu et ils ont passé la mer, et bien tous ceux-là qui ont cru, ils ont eu la vie sauve. Je viens à un deuxième exemple dans notre passage d'Hébreux 11. Après Moïse qui nous enseigne sur la foi, il y a les murailles de Jéricho au verset 30. Nous revenons à Hébreux 11 au verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Là, c'est la conquête de Canaan. Le peuple a passé donc 40 ans dans le désert. Mais le peuple, ce n'est pas un peuple de guerriers ici. C'est un peuple assez paisible. C'est un peuple qui ne sait pas se battre. Et pendant ces 40 années, il n'y a pas eu de bataille particulière. Et l'armée n'est pas équipée. Ils ont une armée, ils ont quelques moyens de défense, mais ce n'est pas une véritable armée. Et voilà qu'ils sont engagés dans une conquête d'un pays, Canaan. Et le premier défi, c'est une puissante muraille, les murailles de Jéricho, de 6 mètres de large, d'une hauteur incroyable. Et puis, il n'y avait rien à faire pour s'en sortir. Alors, là encore, le peuple est décontenancé. Il dit, mais c'est impossible. On n'arrivera jamais. Pourtant, ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont vu être nourris pendant toutes ces années par le miracle de Dieu, la manne qui venait, les cailles, les miracles. Ils vivaient dans les miracles. Mais à chaque fois, c'est impossible. Ça, c'est le mot qui nous revient à l'esprit. Chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est impossible, c'est trop fort. Les autres sont plus forts que nous. Et Josué prie. Et c'est là où nous avons par la foi une ressource inépuisable. C'est dans la parole de Dieu, dans la prière, que nous allons recharger nos batteries. Parce que nous nous vidons dans le monde, nous nous vidons dans ce monde. Mais nous nous rechargeons dans la présence de Dieu. Et dans la foi, dans la prière, il va recharger ses batteries, Josué, et il va dire c'est possible. C'est possible parce que Dieu m'a donné le plan. Le plan de Dieu, c'est, vous faites le tour de la ville, vous sonnez des trompettes. Le septième jour, vous allez pousser des cris, les murs vont tomber. C'est un plan qui n'est pas tellement, on va dire, sur le plan de la, des combats, qui n'est pas très très fort, parce que c'est juste sonner des trompettes et pousser des cris, mais qui spirituellement va avoir des conséquences extraordinaires. Le peuple, donc dans la foi, va faire le tour de la ville une première fois, deuxième jour, jusqu'au sixième jour, une fois par jour, dans la foi, tout simplement, en chantant, en sonnant des trompettes. Mais quelques croyants sceptiques diraient, mais est-ce que les cris vont vraiment faire tomber une muraille? Ce n'est pas nos cris qui vont faire tomber la muraille. Ce n'est pas les cris, c'est la foi. C'est parce qu'ils ont la foi en Dieu que, associé à leur prière, ça va produire la bénédiction. Mais les cris en eux-mêmes n'ont pas la puissance. Les cris ne peuvent pas faire tomber le mur, mais la foi, oui. C'est la foi, frères et sœurs. Donc, associons nos prières, la foi. Il y a des murailles autour de nous, des murailles d'impossibilité. Il y a deux manières de les voir. Soit nous disons, nous n'y arriverons pas, elles sont imprenables, et nous laissons tomber. Ou soit nous disons, c'est l'occasion d'exercer ma foi. Je vais crier et je vais croire que Dieu va agir. Et là, nous allons voir la puissance de Dieu, parce que Dieu a fait un tremblement de terre et la muraille est tombée par terre comme un soufflet qui s'est effondré. Et ils ont pu conquérir la ville de manière efficace. Donc, aucun mur ne tiendra devant Dieu. Il y a même le mur, vous savez, ce mur de Berlin qui avait été construit dans les années 60, et qui un jour, par la prière, il y avait des croyants qui priaient depuis des années, eh bien ce mur s'est effondré en 1989, et il y a eu cette grande libération. Les murs humains, ils vont tomber, ce sont des murs de haine, ce sont des murs terrestres, c'est comme des murailles, mais ces murs-là, avec la prière, avec la foi, ils vont tomber dans le nom de Jésus. Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui s'attendent à Dieu. Et verset 31, je termine avec Rahab, cette prostituée, verset 31, qui ne périt pas lors de cet écroulement gigantesque des murailles de Jéricho. Rahab, par la foi. Pourtant, quand on regarde la vie de Rahab, c'était une vie de péché. Elle était prostituée, elle vivait dans la débauche, dans cette forme de péché grave aux yeux de Dieu, mais elle était aussi dans une ville de péché, elle ne connaissait pas encore le Dieu d'Israël. Mais quand elle a été au contact des espions qui lui ont parlé du véritable Dieu, elle a changé de vie, elle a accepté Jésus, elle a accepté Dieu, on dira, elle a accepté Jésus pour nous aujourd'hui. Et c'est ça, ça nous montre la grâce de Dieu, parce que c'est une femme qui était perdue. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, on a Corneille, un homme qui était romain d'origine, qui ne connaît pas le vrai Dieu, mais qui prie à sa manière et qui fait des aumônes, des offrandes. Eh bien, la Bible dit que Dieu entend ses prières. Il n'est pas encore sauvé, il n'est pas encore enfant de Dieu, mais il cherche à tâtons, mais Dieu entend ses prières. Il y a des gens qui prient autour de nous, ils ne sont pas encore sauvés, mais Dieu entend déjà des prières. Et il va y avoir des exaucements. Ce sont des gens qui cherchent. Cette femme cherchait Dieu. Et il s'est passé un miracle, c'est qu'elle a été mise au contact de croyants. Et autour de nous, il y a des gens qui cherchent Dieu. Et nous, nous sommes là, nous sommes dans le monde, comme des ambassadeurs. Nous sommes en mission. Et ces bien-aimés qui sont autour de nous, eh bien, ils cherchent avec leurs yeux, avec leur soif. Ils cherchent des croyants, en fait. Sans le savoir, ils cherchent Dieu. Et nous, nous sommes là pour les aiguiller. Et ces espions ont aiguillé, donc cette femme, à rencontrer le véritable Dieu. Et elle a cru, avec sa foi simple. Alors, il y a quatre enseignements sur la foi de Rahab. Premièrement, la foi est individuelle, c'est-à-dire qu'elle a cru elle seule, mais elle n'a pas pu croire pour le reste du peuple. Elle a cru et elle a été sauvée elle-même. On ne peut pas croire pour les autres, mais on peut croire pour soi-même. Sa foi l'a sauvée de la perdition, parce qu'elle n'est pas morte comme elle aurait dû avec tout le peuple. Elle a été donc épargnée. Sa foi lui a permis de changer de vie. Elle vivait dans cette prostitution. Elle en a été délivrée. Maintenant, elle vit dans la sainteté. Et puis enfin, sa foi lui a donné une nouvelle destinée, puisqu'elle s'est mariée avec quelqu'un du peuple d'Israël. Et les enfants qui sont venus au travers d'elle, elle a été dans la lignée du Messie. Elle s'est retrouvée dans la lignée de Jésus-Christ lui-même. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire chez Rahab, c'est que sa foi simple a transformé toute chose dans sa vie et qu'elle est devenue, on pourrait dire, une nouvelle créature. Jean explique les conséquences de la foi lorsqu'il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, donc la foi, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. » C'est Dieu qui donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par le pouvoir de Dieu qu'il a fait en nous. Il nous a fait naître de nouveau, comme il l'a fait pour Rahab, comme il l'a fait pour les croyants. Devenir enfant de Dieu, c'est donc possible pour tout le monde, en tout lieu. Rahab, c'est l'image que Dieu s'intéresse à nous, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, même de péché. Son nom ne nous serait jamais parvenu si cette femme n'avait pas eu la foi. La foi est donc décisive, et même la foi est décisive pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est par la foi encore que notre nom est écrit dans le livre de vie, comme celui de Rahab, comme celui de Moïse, de tous ceux qu'on a cités. Nous les retrouverons au ciel, dans la présence de Dieu. On va prier quelques instants. Prenons modèle sur ces héros. On a parlé de Moïse. Oui, il y aura des défis, comme Moïse a connu. Il y a des mers rouges à traverser. Il y a des grands défis à notre époque aussi. Oui, il y aura des murailles, comme a connu Josué. Il y aura des murailles devant nous qui vont se dresser, frères et sœurs. Mais nous ne devons pas craindre ces choses. Nous devons avancer par la foi et nous confier en Dieu seul. Merci encore pour ta grâce, parce que nous savons que tu as un plan merveilleux. Ô Seigneur, tu nous as révélé l'importance de la foi, la nécessité de croire, alors même que tout semble impossible, alors même qu'il n'y a aucune issue, Seigneur. Nous devons encore développer cette vision, regarder vers l'invisible, croire dans celui qui peut tout changer, croire dans celui qui peut intervenir même quand tout espoir nous semble définitivement enterré. Seigneur, nous croyons ce matin que tu as encore des plans et des projets d'amour, des plans de bénédiction pour ton peuple, pour mon frère ou ma sœur qui est venu chargé ou fatigué avec ce besoin d'une assurance. Alors nous voulons, Seigneur, développer cette foi et croire dans le miracle, croire que tu peux encore changer les circonstances, les situations. Oui, Seigneur, bénis chacun, nos bien-aimés, peut-être de notre famille, ceux qui ne sont pas encore en Christ, parce que là encore, c'est un combat. C'est un combat pour notre famille, c'est un combat pour nos enfants, et nous voulons voir ta gloire dans nos familles, Seigneur, dans nos voisinages, dans nos bien-aimés que nous connaissons, afin qu'ils connaissent le Dieu vivant et vrai que nous servons, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse sous son regard.